les gens comme moi, ce sont des gens qui aiment les gens, je pense, qui vont prendre sur eux pour aller rencontrer des gens et leur parler, les faire parler d'eux et essayer de raconter ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu avec le plus d'à propos et d'honnêteté aussi. Et donc, les gens comme moi, ils passent beaucoup de temps probablement à réfléchir à la bonne manière de faire pour que les gens dont on parle et qui nous racontent leur histoire ne se sentent pas trahis ni abîmés.
Bonjour, je suis La Petite Blanc et vous êtes dans Du Poil Sous les Bras. Un Du Poil Sous les Bras enregistré dans la très bonne librairie de Toulouse, Terra Nova. Merci encore aux libraires pour leur accueil. Et vous, auditeurs et auditrices, eh bien, si vous passez à Toulouse, faites un saut au 18 rue Léon Gambetta, vous serez bien reçus. Alors mon invitée du jour n'est pas journaliste, mais elle aussi, comme tout journaliste qui se respecte, s'efforce de ne pas trahir la parole récoltée. D'ailleurs, quel que soit notre métier ou nos liens, on devrait toujours s'efforcer de ne pas trahir la parole des autres. Une parole qu'on nous a confiée, c'est un petit trésor. La preuve, c'est une forme de torture de n'entendre jamais personne, ça rend fou. Alors aujourd'hui, plus que jamais, apprenons à écouter et si besoin à rendre compte, mais sans jamais déformer ni trahir.
Bonjour, je suis Sophie Houdard et je suis anthropologue, chercheur au CNRS, au Centre National de Recherche Scientifique. De ce fait, je suis fonctionnaire et je travaille essentiellement dans la recherche, c'est-à-dire que je fais très peu d'enseignement. J'ai cette chance de pouvoir consacrer ma vie à des projets de recherche qui, en l'occurrence, portent depuis plus d'une dizaine d'années sur la relation entre nucléaire et territoire.
Bonjour Sophie Houdard, Ohayo gozaimasu, comme je le dirais en japonais, et merci arigato de venir sur toutes les antennes de Du Poil Sous les Bras pour nous rapporter la parole de personnes qui sont loin de nous mais qui nous apprennent beaucoup sur le monde. Avant de démarrer, je me suis dit, tiens, profitons quand même de Sophie pour faire le point sur ce qu'est une anthropologue, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si évident pour tout le monde.
Il y a souvent des termes qu'on utilise un peu l'un pour l'autre. On entend ethnologie, c'est-à-dire l'étude des ethnies. Anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Quand on dit anthropologie en France, c'est anthropologie sociale, donc c'est l'étude de l'homme en société, comment les gens font société, comment et pas l'anthropologie physique, c'est pas le faciès. Des fois, on me dit « tu travailles sur les os ». Je travaille pas sur les os, je travaille sur des gens vivants. Et qui grandissent, qui vivent, qui travaillent, qui meurent dans des contextes culturels, sociétaux, particuliers. Et donc en anthropologie, on travaille sur, très souvent, pas sur un pays. Je peux pas dire que je travaille sur le Japon, je peux pas dire non plus que je travaille sur les Japonais. Mais je vais m'intéresser à poser une question, pour mon cas, que j'essaye de faire assez petite en général, et je rencontre un petit nombre de gens. Et ce qui est fondamental en anthropologie, c'est la relation qu'on essaye d'avoir, fondée en partie sur l'empathie, une relation longue qu'on peut établir avec les gens, et une relation de confiance. Et donc voilà, c'est ça le métier de l'anthropologue qui donc se charge de établir un contact avec des gens qui soient de qualité pour que les gens nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter, de la manière dont ils ont envie de nous raconter, et puis nous ensuite on essaie de le raconter à notre tour.
Quel beau métier que l'anthropologie et quel beau livre que vient d'écrire Sophie Houdard, un livre intitulé « Ce territoire qui comme une pulsation », un livre paru aux éditions des Mondes Affaires en janvier 2026. Et ce livre parle du nucléaire d'une façon que j'ai trouvée originale et touchante. Direction la région de Tohoku, dans la partie nord de l'île de Honshu, l'île principale du Japon, sur laquelle se trouve aussi Tokyo. Tokyo, c'est à peu près au milieu. Hiroshima, tout au sud, et donc Tohoku, la région du nord. Et Sophie Houdard nous raconte comment vivent celles et ceux qui sont restés après la grande catastrophe, puisque c'est souvent ainsi que l'on désigne au Japon la triple catastrophe du tremblement de terre suivi du tsunami et de l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. La première centrale nucléaire construite à Fukushima et exploitée par la société TEPCO. Centrale tristement célèbre donc depuis le terrible accident nucléaire de mars 2011 à Fukushima, donc dans la région de Tohoku. Alors après cette catastrophe, la zone autour de la centrale, la zone la plus proche, a été vidée de ses habitants et c'est encore aujourd'hui une zone interdite car on considère que la radioactivité est encore trop présente. Mais de l'autre côté de cette zone, juste à côté là, 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, qu'en est-il? Comment vivent les hommes et les femmes dans cette zone où, on s'en doute, la radioactivité n'a pas disparu? À travers ce que vivent ceux que l'on appelle les Ubakusha, Sophie Houdard raconte le nucléaire, la radioactivité, les vies à la fois bouleversées évidemment, mais qui continuent presque comme avant, enfin pas tout à fait quand même. Sophie Houdard raconte la vie partout, alors qu'on a cet imaginaire des zones irradiées qui seraient des zones mortes, pas du tout. À travers ce territoire en pulsation plein de vie, on comprend mieux ce qu'est la radioactivité, ce qu'on en sait, ce qu'on ignore, ce que ça implique pour ceux qui sont restés et qui vivent avec. Du poil sous les bras avec Sophie Houdard, et bien c'est parti.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors essayons de comprendre quelle est cette petite question qui a titillé l'anthropologue, une question que ni vous ni moi ne nous étions posée probablement.
Disons que j'ai essayé de rendre petite une question qui vient après une énorme catastrophe. Voilà. Ce qui arrive, c'est donc 11 mars 2011, il y a un séisme qui génère un tsunami sur les côtes du nord-est du Japon. Et tout ça... ensemble, une suite de circonstances et une histoire très longue font que une centrale nucléaire, enfin deux centrales, mais notamment une, Fukushima Daiichi, Fukushima numéro 1, est accidentée, explose et il y a une contamination nucléaire importante. Donc c'est une grosse catastrophe. Et effectivement, moi je travaillais déjà sur le Japon quand c'est arrivé, donc ça faisait des années que je me rendais au Japon, voilà, très régulièrement, avec des projets de recherche qui m'ont emmené dans des milieux assez différents. Ce qui se passe pour moi après cette catastrophe, c'est de la décontenance. Je suis décontenancée. Je ne sais pas comment aborder ça. Je me suis, moi, à titre personnel, jamais vraiment posé des questions relatives au nucléaire. Et la première question que je me pose, qui est donc, qu'on pourrait dire, cette petite question, c'est comment les gens font pour respirer? Alors, c'est à la fois une grosse et une petite question. C'est pas la grosse question, c'est pas que penser du nucléaire ou... quel avenir pour le Japon ou voilà, c'est pas des grosses questions comme ça. Que font les gens pour respirer? C'était de me dire vraiment presque à l'échelle de, c'est l'échelle à laquelle moi je me situe. J'aurais pu me poser cette question-là si j'avais vécu à ce moment-là dans ce pays-là, dans cet endroit-là de ce pays-là. Et il arrive ça. Et d'un coup, il y a une perte d'assurance totale de la composition de l'air, de l'environnement, pour le dire plus trivialement, mais de quoi est fait l'air qu'on respire. Et vraiment, je me suis demandé comment les gens faisaient avec ça. C'est pas une pollution qui se sent, c'est pas une pollution qui se voit, c'est pas une pollution qui se touche. Et dans beaucoup des endroits où ça s'est produit, c'est une contamination, ce qu'on appelle à faible dose de radioactivité. Donc il y a eu des mouvements de population très, très importants, mais il y a eu des tas d'autres endroits où les gens n'ont pas été déplacés et sont restés vivre là. Et je me suis demandé comment ils faisaient. Voilà. Comment ils faisaient pour accomplir de continuer à accomplir cette chose qui relève de la physiologie la plus élémentaire. On ne peut pas ne pas respirer si on veut être vivant et on n'a pas de prise. Enfin, il y a assez peu de moments dans la vie, dans l'existence, dans une journée même où on conscientise le fait de respirer et je me suis demandé comment ils respiraient.
Respirer quand l'air est radioactif. That is a putain de question. Dans ces zones léopards, comme on les appelle, parce que tachetées de radioactivité, dans ces zones, peut-on rester vivre? Est-ce que la radioactivité évolue ou stagne, vole ou nage dans ces zones? Je cite, se fracture le concept de rationalité. On est comme dans un nouveau monde, un monde parallèle. La question de la respiration donne le vertige. Sait-on si la radioactivité, ça monte dans l'air ou ça descend, ça s'incruste dans la terre? Est-ce que ça rentre dans la peau? C'est comment? Invisible, inodore, intouchable, nous dit Sophie Houdard. Mais alors comment on fait? La respiration, c'est loin, très loin d'être une petite question.
C'est là que ça m'a attrapé tout de suite. Et après, la traduction de cette question-là pour en faire un projet de recherche, ça a été de dire que j'allais faire un terrain, une enquête sur les mesures de l'air au Japon. Donc d'abord, j'ai pris l'air parce que ma question de base, c'était la respiration. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on mesure ? D'emblée, ce qui est venu tout de suite après la catastrophe, c'est l'idée que la plupart des situations de l'existence quotidienne allaient être médiées par des instruments de mesure à partir de ce moment-là. Je me suis dit, je retourne au Japon et je vais aller voir comment on mesure, avec quel instrument, d'où viennent les instruments, etc. Comment on fait une carte, comment on sait comment ça se déplace, etc. Et donc les premiers temps de l'enquête, c'est ça, c'est d'aller voir un peu tous les endroits dans ce nord-est du Japon, le Tohoku, la région du Tohoku, les endroits où on mesure, les institutions où on mesure, de m'intéresser aux instruments de mesure eux-mêmes, d'essayer d'en retracer l'histoire éventuellement, et de voir quels sont les usages que font les gens de ces instruments de mesure. Comment ça entre dans le terreau, voilà. Donc ça, c'est la première descente, enfin, c'est le premier vertige d'une certaine façon. C'est comme tu le dis très bien, et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'en lisant le livre, on se figure le vertige pour les gens eux-mêmes, de se dire tout va être mesuré. Et c'est pas des échantillons qu'on mesure. Donc on mesure tous les sacs de riz qui viennent de toutes les rizières, par exemple, pendant des années. Ça change la manière de travailler parce qu'il faut mettre le riz dans les sacs, ensuite les mettre dans le camion, ensuite les porter à la coopérative agricole où il y a un point de mesure, et ensuite etc., etc. Voilà. Et donc, pendant les premières années, effectivement, les gens vont se mettre au travail accompagnés par des agronomes, des experts en radioactivité, etc., des scientifiques qui viennent souvent, la plupart du temps, bénévolement, en fait, dans la région pour commencer à faire des choses et à pouvoir savoir, effectivement, les endroits où on peut marcher, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, comment on peut se déplacer, enfin, voilà, quoi, de répondre à ces questions qui sont des questions vitales et en même temps que très quotidiennes, quoi. Les gens vont mesurer beaucoup, vont s'équiper aussi. Alors d'abord, il y a des instruments de mesure qui sont installés par le gouvernement, des grandes stations de monitoring qui vont être installées dans des endroits stratégiques, des instruments de très haute précision qui vont donner des chiffres. Voilà, on passe devant, on voit un chiffre qui s'affiche quotidiennement. Le chiffre change quotidiennement parce que ce que vont comprendre aussi très vite les gens, c'est que ces mesures-là, elles varient avec le temps, avec le climat, avec la saison, donc voilà, avec une série de choses. Voilà. Ça va bouger pendant très longtemps. Voilà. Et puis, la deuxième catégorie, enfin, il y en aurait plein d'autres, mais la deuxième catégorie, disons, de mesures qui sautent aux yeux quand on arrive pendant les premières années, c'est les gens s'équipent à titre individuel, sont équipés dans certains endroits, s'équipent à titre individuel de compteurs GGR. Et donc, ce sont des petits instruments qui tiennent dans la main et qui vont accompagner les gens dans leurs déplacements. Voilà. Et après, il se trouve que très vite, les gens vont comprendre que... alors déjà, on devient quand même un peu dingue à être dans ce rapport à sa vie quotidienne et son environnement systématiquement mesuré. Voilà. Qu'un compteur GGR, quand on l'a dans la main, quand on l'a dans la voiture, etc., les chiffres n'arrêtent pas de monter, descendre, etc., qu'un compteur GGR, ça calcule aussi la radioactivité naturelle, donc il ne fait pas de distinction a priori entre radioactivité naturelle et artificielle. Donc on a dans la mesure le bruit de fond aussi. Pour les gens, c'est déjà une pensée nouvelle. Hein. En fait, on n'a pas forcément tous conscience qu'on vit dans un bain radiologique qui n'est pas le même à tous les endroits de la planète non plus. Donc, et voilà, est-ce que je vais voir à mesure des années où je vais me rendre sur place et finalement m'installer toujours au même endroit, c'est que les gens vont lâcher, en tout cas les compteurs GGR, c'est-à-dire ces instruments au plus proche de... des corps, en fait, hein, des individus en tant que personnes, parce qu'ils ont compris que mesurer n'allait pas faire taire toutes les incertitudes. Voilà.
Vivre après un accident nucléaire, c'est vivre au rythme des chiffres, des formules mathématiques, des probabilités qui suivent, des modèles de dispersion de polluants qui varient et en deviennent des hypothèses arbitraires ou aléatoires. C'est vivre au rythme des campagnes de revitalisation, de reconstruction, de renaissance, ou quel que soit le nom que le gouvernement donne à ces différentes phases de vie. C'est vivre, en tout cas, en suivant les chemins sinueux de la radioactivité qui avance sur Terre plus vite que la science, manifestement. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait presque rien. Au final, on a l'impression d'être dans un grand flou.
C'est très vrai. Alors là, il y a eu beaucoup de critiques dans les années qui ont suivi la catastrophe, parce que si on regarde par exemple les opérations de zonage, et les opérations de zonage, c'est hyper important parce que des opérations de zonage sont dépendantes, voilà, les indemnisations qu'on va toucher en fonction de la zone dans laquelle on se retrouve. Et donc toute la question des seuils, la question des mesures, c'est-à-dire à partir de quel moment, de quel chiffre on va décider qu'on est dans la zone 1 plutôt que dans la zone 2 ou dans la zone 3, bah tout ça, il y a énormément de conséquences qui vont découler de ces choix-là. Et les discussions vont être incessantes pendant les premières années et torturer beaucoup les gens. Le zonage, c'est une frontière. Donc il y a un moment, il faut faire passer la frontière quelque part. Et donc la frontière, elle peut passer, par exemple, au milieu d'un village. Et donc si on est d'un côté, il faut bien qu'elle tombe quelque part. Et donc si on est d'un côté de la rue ou de l'autre, on est évacué ou pas. Et donc là, ça prend effectivement un tour cauchemardesque, en fait, pour les gens. Parce que tout le monde a bien conscience que c'est pas un fil. C'est pas... Là, j'ai un ami japonais qui est photographe et aussi anthropologue et qui avait fait un très beau projet avec des tas de gens qu'il a emmenés dans la région de Fukushima. Et l'idée était d'avoir un fil très long. Et il y avait deux personnes qui tenaient le fil. Et simplement de filmer ce moment-là, voilà, deux personnes qui tiennent un fil très long qui était sur ce fameux zonage, cette fameuse, on le voit sur une carte, hein, c'est un trait sur une carte. Voilà. Donc eux se sont mis sur les traits. Et on voit les fils qui bougent avec le vent, enfin on voit qu'il y avait une portée évidemment poétique, aussi politique, dans ce geste très simple, cette installation en fait hyper simple qui consistait à montrer comment c'était, ça relevait de l'impossible, ça relevait du fantasme en fait, et ça relevait aussi d'une imposition politique violente sur les corps, quoi, parce que on détermine, voilà. Et donc il y a eu énormément de critiques formulées et beaucoup d'études aussi sur ces questions de zonage, sur ces questions de mesures, sur ces questions de relever les seuils, parce que si tu as des seuils trop bas, un très grand nombre de la population est concerné par des subventions, par des indemnisations, etc. Et donc ça on l'avait déjà vu, c'est des choses qui sont des espèces d'ajustements cyniques en fait. Qui ont lieu dans chacune des catastrophes de ce type-là. Après, c'est pour ça que pour moi, ça a compté de changer un peu d'échelle, de ne pas trop m'embarquer sur ces questions-là qui ont été étudiées aussi par d'autres gens, et de m'installer dans un endroit. Je fais la connaissance de ces gens-là qui habitent à Towa, qui est à une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima d'Haïti, et qui donc sont en dehors de la zone d'évacuation, concernés par l'évacuation. Et donc ils sont restés vivre là, en fait. Et de fait, il y a des personnes qui partent tout de suite après la catastrophe, qui s'éloignent et qui reviennent au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout d'un mois. En fait, personne n'a quitté cet endroit-là. Voilà. Et donc les gens se posent cette question du vivre avec dont tu parlais. Ils disent, nous on reste là. Et par ailleurs, ils ont eu des aides, notamment pour la relance agricole, mais pas d'indemnisation. voilà, on ne leur a pas construit de serre, on leur a pas, donc il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Et pour eux, ces questions-là de zonage, etc., d'un coup, ils vont vraiment faire descendre l'échelle des questions. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est ce champ-là, ce bois-là, cette situation familiale-là, etc. Et donc, ils comprennent assez vite que, en fait, de toute façon, ils n'ont plus confiance dans le gouvernement. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent par eux-mêmes à faire les choses et à prendre des décisions par eux-mêmes. Et donc, ils vont s'équiper, ils vont s'entourer, ils vont lire et ils vont observer eux-mêmes, faire des expériences par eux-mêmes et tirer leurs propres conclusions. Et donc, les conclusions qu'ils tirent de tout ça sont des conclusions locales. Et Monsieur Ono, il me dit, moi, ce qui m'intéresse, je vais pas servir de modèle. Ce qui m'intéresse, c'est là. Là, maintenant, aujourd'hui, voilà, à l'échelle de ma communauté. C'est pas à l'échelle de sa propre petite gueule, c'est à l'échelle de ma communauté. Voilà, c'est à Towa, pour les gens de Towa, etc. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place à partir de là, qui font comprendre que la mesure, effectivement, pour eux-mêmes, ça va vraiment pas suffire. Il va falloir de l'entraide, il va falloir de l'intelligence des situations, il va falloir beaucoup, beaucoup d'autres qualités, beaucoup d'autres outils aussi, dont des outils relationnels, en fait. C'est ça qui va me passionner, moi, quand je fais leur connaissance, en décidant de passer du temps, année après année, avec eux, quoi.
Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Je me laisse porter par tous tes sons qui dansent et j'en oublie les conséquences. Énorme, un cri en frais, un souffle frais. Je ne m'en remets pas, la tête dans le un frais, un souffle frais. Je ne m'en remets pas, la tête dans le cœur. Un peu tendresse, que en deux chaises, je ne comprends pas. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi.
Essayer de mélanger les mauvaises herbes. Les blessures sont des marques qui prouvent qu'on s'est toujours démené. Qu'on avait tout fait pour ne plus jamais être blessé. Alors qu'ils nous laissent nous détruire au nom de nos désirs. Alors qu'ils nous laissent choisir de couler nos navires. Même si ça nous fait souffrir, on finira martyr. Si l'amour s'intensifie, on payera le prix.
Un cri en vrai, un souffle frais. Je ne m'en remets pas, la tête dans le ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi. Tu exploses comme Hiroshima. Tu es mon rêve et mon cauchemar. Tu me hantes comme Hiroshima.
La petite blanche dans du poil, sous les bras.
Apprendre à vivre avec, parce qu'on ne vivra plus jamais sans. Mais alors, vivre avec quoi d'autre? L'anxiété, la peur, le doute? Intégrer la radioactivité dans sa respiration, dans l'eau qu'on boit, dans la tomate qu'on croque, c'est inévitable, puisque c'est la réalité dans cette zone grise. Mais c'est une réalité flippante, parce qu'on ignore ce que ça va vraiment produire, ce que ça va faire à nos corps. Alors le premier risque, c'est de vivre dans ce doute, dans cette incertitude, et d'être rongé par cela.
Les gens comme Monsieur et Madame Ono, ils se disent victimes de ce qu'on a appelé les rumeurs néfastes. C'est en fait un outil politique pour décrédibiliser les gens qui ont peur. C'est, voilà, il y a une très longue histoire de ce qu'on a appelé la radiophobie. Donc le fait de tomber malade quand on est dans une situation comme ça, avec un lâchage de radioactivité. La radiophobie, c'est ce terme qui est inventé à partir des années, fin des années 50, dans les années 60. Enfin, il y a déjà des tas de théories avant que le mot ne soit lancé, suivant lequel on tombe malade du fait de la peur et non pas du fait de la contamination. Et donc les gens disent il faut pas avoir peur. Il y a plusieurs théories là, plusieurs écoles. Il y a eu Tchernobyl avant. Alors il y a les gens qui disent pour ne pas avoir peur, il faut savoir, il faut connaître. On va vulgariser, autrement dit, on va leur expliquer bien simplement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la radioactivité. On va leur expliquer comment utiliser les outils. Et quand on sait, on n'a pas peur. Pour d'autres personnes, c'est le contraire. C'est-à-dire, vaut mieux pas trop savoir. Si on peut éviter d'en parler un peu, c'est mieux. Parce que à force d'en parler comme ça, tout ça, on se fait des idées. Et donc, il vaut mieux ne pas savoir. Pas trop savoir. Voilà. Donc, il y a un peu toutes les écoles. Et les gens à Towa se disent victimes de ces rumeurs. C'est effectivement la radiophobie. Très vite, on dit c'est les femmes qui ont un cerveau radiosensible. Et donc, il faut faire taire un peu les femmes. Il faut les rassurer, il faut soigner leur psychologie. Les rumeurs néfastes, c'est ça. On a accusé les femmes de propager, d'être le vecteur d'inquiétude, de peur, qui fait que dans des endroits comme Towa, les gens ne peuvent plus vendre leur riz, leurs légumes, etc. Et donc, d'un certain point de vue, en fait, les gens avec lesquels j'ai passé du temps à Towa sont les méchants, parce qu'eux continuent à vendre le riz. Mais il faut comprendre le tableau général qui est très compliqué. C'est-à-dire que les gens sont montés les uns contre les autres. Et Monsieur et Madame Ono, comme tous les gens à Towa, vont, à leur échelle locale, faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer, effectivement, de rassurer la population. Ils n'ont pas essayé de vendre à tout prix, à n'importe quel prix, en n'en ayant rien à faire des conséquences sanitaires, etc. Ils ont enquêté pendant des années et c'est des arbitrages à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays, etc. Mais il faut imaginer le climat général, en fait, voilà, dans lequel toutes ces enquêtes-là sur c'est quoi le rapport du riz avec la terre, avec le sol, avec le vent, avec le soleil, tout ça. Il faut imaginer que le climat général, c'est ça. Voilà. C'est de la peur, et puis que c'est pas non plus, les catégories sont pas fixes. Et là, on a travaillé aussi avec un collectif, donc on est allé à plusieurs dans la région de Towa et plus largement dans le département de Fukushima. Et là, c'est très saisissant parce que ce que fait comprendre cette expérience qui consiste à y aller à plusieurs à cet endroit-là, c'est que, en fait, moi, quand j'y suis allée toute seule, je me suis dit, moi, j'y vais 3 semaines, un mois, les gens vivent là, je vais faire comme les gens, et je vais manger comme les gens, je vais boire comme les gens, et je vais pas. Quand je rentrais, on me disait, mais tu n'as pas peur de la radioactivité. Je disais, mais je fais comme les gens. Enfin, eux, ils restent vivre à l'année. Donc, moi, je m'étais fait mon petit calcul, en fait, en me disant, moi, je ne me mets pas en risque. Je n'avais pas du tout l'impression de me mettre en risque. Et le fait d'y aller à plusieurs, simplement à 7, 8, voilà. Ce que ça fait, c'est qu'on arrive avec chacun à un des moments de notre vie différentes, des sensibilités, des connaissances différentes, enfin, tout ça joue et c'est jamais stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, toujours dans le groupe, quelqu'un qui dit « Ah non, en fait, là, je peux pas ». Et sans avoir jamais pu anticiper ce moment-là. Voilà. Et donc, on ne sait pas le moment où, pour nous, ça va être juste « Là, c'est pas possible, là, je le sens pas ». Et c'est très difficile d'objectiver ça. Et donc, on peut imaginer, sur cette expérience-là, on peut imaginer comment, pour les gens, ça s'est produit de la même façon. C'est pas des gens qui ont des positions arrêtées. Ils se sont posés des tas de questions. Ils font des choses un peu au jour le jour parce qu'on est quand même dans. Il y a eu une catastrophe. Enfin, il y a eu un truc qui a bouleversé le pays aussi. Enfin, il y a tout ce contexte-là. Et puis, d'un coup, on peut imaginer qu'ils se sont dit non, mais ça, t'es sûr que tu le donnes à notre fils, là ? Voilà. Et que les interrogations ont été incessantes pendant des années, des années, des années, des années. Et donc, c'est pas stabilisé à l'intérieur même d'une famille, ou à l'intérieur même, encore moins, à l'échelle de Towa, et même à l'intérieur d'un individu. À l'échelle d'un individu, nous, on l'a vraiment éprouvé. On se dit, oh non, on est clair. Non, mais on sait pourquoi on y va. On est clair. On a lu, on a machin, on est prêt. Enfin, je veux dire. Et une fois, on y est allé. Deux fois, on y est allé. Trois fois, on y est allé. Chaque fois, on s'est retrouvé à des moments très différents, suivant les individus, bloqués sur un truc qu'on n'avait pas pu anticiper.
Trop d'incertitudes, donc trop d'informations discordantes. Alors chaque personne fait comme elle veut, comme elle peut, et comme elle peut surtout à cet instant T, en fonction de plein de choses qui la traversent. Est-ce que moi, j'accepterais de boire le thé avec des habitants dans cette zone léopard ? Même 10 ou 15 ans après l'accident, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je n'y suis pas. La zone grise porte bien son nom, rien n'y est tout blanc ou tout noir.
Il y a les zones de contamination très élevées, c'est ce qu'on appellerait la zone interdite. Donc, grosso modo, voilà, il y a des endroits où les gens ne vivent plus, ou ne pouvaient plus vivre pendant des années, avec des taux de contamination élevés. Mais à Towa, les gens n'ont pas été déplacés et on est dans ce cadre-là d'indécidabilité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des faibles doses. Et moi, c'est vraiment l'apprentissage que j'ai fait auprès de ces gens-là. C'est une des choses que je décris dans le livre. C'est en fait des faibles doses de radioactivité. C'est pas juste moins de radioactivité. C'est un régime d'existence très particulier. Voilà. Parce que faible dose, ça veut dire que c'est les choses vont se comporter, les entités radio, les radioéléments vont faire manquer d'assurance tout le temps. On va jamais trop savoir. On sait que c'est pas, on sait que c'est dangereux, mais c'est la mesure est située à un tel endroit d'indécidabilité que on sait pas si c'est. Voilà. Et là, dans les théories, c'est vraiment vicieux en fait cette histoire de radioactivité, parce que dans les théories expertes sur la radioactivité. Pareil, il y a toute une palette, mais grosso modo, il y a une théorie qui veut que bah, plus il y a de radioactivité, plus c'est dangereux. Et il y a une théorie qui dit, bah, même un tout petit peu, en fait, ça dépend de si ça te touche, toi, à un moment donné de ta vie, tel organe, ça va avoir un effet. Peut-être sur moi, ça n'en aura pas. Ça dépend de nos histoires, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, c'est des rencontres, mais du coup... un tout petit peu de radioactivité peut avoir un effet. Donc c'est pas une question de quantité, autrement dit.
Personne n'est atteint par la radioactivité de la même façon. Si vous êtes malade, si vous fumez, ce que vous mangez, votre génétique, votre vie, de tout cela va dépendre comment la radioactivité pourrait vous toucher un organe de votre corps plutôt qu'un autre, et quelles conséquences cela aura sur vous. Alors comment faire, puisque aucune règle universelle ne peut être définie ?
Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de se donner des règles. Il y a des plans de gestion, il y a des voilà, c'est ça qui va avec les infrastructures nucléaires, c'est des plans de gestion, des plans d'évacuation, c'est des zonages, des machins comme ça, des seuils, il faut dire, voilà. C'est des politiques sanitaires. Et après, la physique, en fait, c'est un collègue du collectif qui est géophysicien qui disait c'est stochastique, donc c'est chaotique. C'est-à-dire, voilà, effectivement, si on n'est pas exposé, il y a moins de chances qu'on tombe malade, qu'on ait des conséquences sanitaires, évidemment. Mais à petite dose, par contre, les effets, on n'est plus très sûr des mécanismes qui peuvent s'enclencher à cette échelle-là. Au point qu'il y a même une théorie qui s'appelle la théorie de l'hormèse, qui dit qu'au contraire, et c'est un peu le principe avec la radiologie, hein, qu'au contraire, de très faibles doses de radioactivité vont être bénéfiques pour la santé. C'est impressionnant, moi ça m'a impressionné aussi de me rendre compte que le degré d'incertitude qui reste et des gens qui ne sont pas d'accord, c'est quand même très troublant, quoi. Parce que c'est à la fois des théories scientifiques, mais par exemple, nous, on y est confrontés, là, par exemple, avec ce collectif, là, une des premières fois, où c'est comme une trappe qui s'ouvre sous les pieds. C'est, on va dans la région de Fukushima, on prend un hôtel. Dans les hôtels japonais, souvent, il y a des bains publics, enfin, bain pour les hommes, bain pour les femmes, très chaud. Et on arrive dans le bain pour les femmes et on voit que c'est un bain au radon. Donc, le radon, c'est le gaz du radium. Donc, il y a une pierre donc, qui est radioactive dans le bain. Et ça, c'est. Et il y a la liste de tout ce que ça. Tous les effets bénéfiques de cette eau-là, très légèrement radioactive, pour la santé. Et du coup, là, c'est ce sentiment de dire, mais enfin, je comprends pas, on est à Fukushima, on est quelques années après la catastrophe, les gens savent comment cette chose-là est possible. On a l'impression d'un retour sévère, direct, au 19e siècle, dans cet autre moment de la radioactivité, où on associait à la radioactivité des vertus quasi magiques, en fait, voilà. Et ça coexiste. Voilà. Et ça renvoie au fait que dans le champ scientifique, les choses ne sont pas réglées. Et probablement qu'on est pile à un endroit où ça ne pourra pas être réglé. Parmi les derniers développements scientifiques, là, il y a une autre théorie qui, suivant cette théorie, c'est au contraire de très faibles doses de radioactivité, un peu en continu. Ce qui est le cas, par exemple, dans la Hague, dans des endroits où il n'y a pas eu de catastrophe, encore. mais il y a des tas de petits incidents dans l'échelle de des infrastructures nucléaires, enfin des opérateurs nucléaires. Et il y a eu des petites fuites quand même dans les années 70, 80, voilà. Et donc les gens savent qu'il y a un peu. On en retrouve, on sait que telle rivière, à tel endroit, enfin voilà, il y a des lâchers qui n'y auraient pas dû être, enfin voilà. Et donc là, suivant cette dernière théorie, quand tu as un tout petit peu, mais pendant très longtemps comme ça, c'est-à-dire à l'échelle d'une vie. En fait, c'est ce que ton corps prend, c'est tellement à bas bruit, tellement bas, en fait, que le mécanisme dont on est équipé par ailleurs, qui est un mécanisme de réparation des cellules qui peuvent être atteintes dans des tas de circonstances, ce mécanisme-là ne se déclenche pas. Voilà. Donc, ça, c'est pas très optimiste que je dis là, mais... Voilà, c'était pour faire un peu le panorama général de toutes les théories qui sont encore au travail parmi les scientifiques. Tell us about it, Janet. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean you've only ever kissed? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I wanna know is how to go.
Petite blanc dans du poil sous les bras.
On ne sait pas grand-chose. On voit bien les similitudes entre Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima et tant d'autres événements catastrophiques liés au nucléaire. Mais on voit aussi toutes les différences dans la propagation, les concentrations, les dommages collatéraux. Finalement, les explosions se produisent et on survit. Alors, au lieu de faire croire à des accidents improbables qui ne devraient jamais arriver, eh bien, on fait accepter aux populations que désormais c'est une possibilité, comme une autre, d'avoir un accident nucléaire ou de recevoir une bombe sur la tête. On va juste discuter de ce qu'on fait quand le pire arrive, puisqu'on sait désormais que le pire arrive de temps à autre. Alors on va tergiverser pour savoir où est-ce qu'on mettra la frontière, où est-ce qu'on dira « bah ici, la radioactivité s'est arrêtée, vous vous inquiétez pas, là par contre, attention ». La nouvelle doctrine, c'est « le pire n'est plus si pire, finalement ».
C'est vraiment, pour moi, ce que j'ai découvert en suivant les gens pendant toutes ces années, quoi. C'est de réaliser que très probablement à Towa, cette question de la contamination allait pas être une question de vie ou de mort. Les gens sont pas en train de se choper des cancers de la thyroïde. C'est pas si colossal. Il y a une augmentation, mais c'est pas si colossal. Ce qui a été mis en péril, c'est la relation qu'on entretient avec toutes ces choses. Donc on a parlé de la mesure, les gens font ça pendant des années, et une année je reviens et je me rends compte qu'en fait les gens sont moins préoccupés, sont toujours préoccupés de mesures, mais sont plus, se conduisent plus comme des naturalistes ou des éthologues. Ils regardent le comportement, c'est-à-dire ils enquêtent, ils ont commencé à essayer de comprendre comment se comporte la radioactivité, le césium. Voilà. Et donc c'est plus comme on a affaire à un animal qu'on voit pas, on voit que les traces, et il faut comprendre comment la radioactivité elle se déplace, à quoi elle s'accroche, comment on peut la fixer, comment elle stagne à certains endroits, comment elle va être remise en mouvement par les intempéries, un typhon, comment elle va être saisie par des environnements chaque fois spécifiques. Donc la radioactivité, telle dose de radioactivité dans une rizière, ça fait pas la même chose que la même dose de radioactivité dans une forêt ou dans une rivière. Les gens comprennent qu'il va falloir tout distinguer, tout discriminer et faire une enquête dans la rizière, dans la rivière, dans la forêt. Et là, je te parle d'environnement, et dans la forêt, il va falloir voir la radioactivité avec tel type d'arbre, tel sol, tel type d'écorce, tel type de croissance d'arbre. Et dans la rizière, il va falloir voir le rapport de la radioactivité avec tel type de riz, avec la racine du riz, du plan de riz, avec la feuille du plan de riz, avec la tige du plan de riz. À chaque fois, c'est différent. Et donc, il n'y a pas un péril sanitaire imminent. Et en même temps, les gens, ils ont été mis dans une situation où d'un coup, la continuité entre toutes ces choses, c'est-à-dire le fait de, on ne passe pas notre temps à s'interroger sur le lien entre chacune des choses qu'on côtoie, qu'on touche, etc. Et là, d'un coup, les gens doivent... Plus rien ne devient innocent, quoi. Enfin, il n'y a plus de ce sentiment de continuité de l'existant, de l'existant, et donc de l'existence, quoi. Tout ça est mis en péril, vraiment.
Les habitants de ces zones grises deviennent experts de leur expérience de vie singulière, d'une vie avec la radioactivité. Ils étudient ce qu'il se passe, ils deviennent chercheurs, ils mettent ainsi en lumière la connexion du vivant, les interconnexions de tous les vivants. Suivre le chemin de la radioactivité, c'est aller du ciel à la terre, des racines aux bactéries, de l'eau à la pierre, de notre peau à notre intestin, tout y passe, tout est poreux à la radioactivité. Comme si cet état de fait permettait aussi une opportunité nouvelle de voir ces connexions, de mieux les comprendre, de repenser notre lien aux autres et au territoire. Au final, on pourrait presque se dire, la vie perdure, ça va quoi.
C'est vrai que ce dont tu parles, c'est quelque chose avec laquelle je me suis moi-même battue beaucoup dans le livre. Et parce que je voulais pas du tout banaliser, donner l'idée que ce qui se passait à Towa, c'était de l'ordre du banal, que c'était de l'ordre de la réparation, puis ça va, quoi. Enfin, on prend un peu sur nous, hop, 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 et puis... mais il fallait bien que j'entende aussi M. Ono qui disait, quand même, toutes ces années, c'était quand même passionnant. J'ai rencontré plein de gens, des tas de scientifiques qui sont venus chez moi. Ça serait jamais passé s'il n'y avait pas eu la catastrophe. Puis on s'est mis au travail et puis on s'est soudés. Toute la communauté s'est vraiment soudée. C'est comme un électrochoc. Et on a fait plein de trucs ensemble. Ça a relancé la communauté, le fer communautaire. Et il y a des belles choses qui naissent de ça. Voilà. Et je me disais, comment je vais faire pour raconter ça sans qu'on puisse imaginer que bah, ça va quoi, une catastrophe nucléaire, franchement, ça va quoi. Voilà. Ça va être un peu dur au début, mais ça va aller. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Tchernobyl, sur Fukushima, sur d'autres catastrophes nucléaires et sur d'autres catastrophes de pollution aussi d'ailleurs. Et parfois, il y a des manières de dramatiser qui me semblaient pas tout à fait justes. Sur les catastrophes nucléaires en particulier, on a un imaginaire qui est super nourri déjà. Il y a des tas de d'images qu'on a en tête. On dit Tchernobyl, on dit zone interdite. Voilà, on a tout de suite un imaginaire qui se met en action, quoi. Voilà. Et donc il y avait l'idée non plus de pas utiliser de ce registre-là. C'est pas qu'il est faux, c'est qu'il dit pas tout. Et donc l'idée là dans le livre, c'était aussi de mettre de l'attention à d'autres endroits, comme tous ces moments d'enquête là à tout petite échelle sur cette histoire d'écorce d'arbre où on découvre qu'en fait bah les chênes c'est moins bien que les bouleaux parce que l'écorce elle est toute crénelée et que ça devient des réservoirs à radioactivité et qu'il va falloir repenser la totalité de la gestion forestière en fonction de cette nouvelle, c'est juste en fonction du type de la peau des arbres, l'écorce des arbres quoi. Voilà. Et donc, voilà, moi j'ai essayé de faire porter l'attention à ces endroits-là pour pas qu'on imagine que c'est trop cool.
Ce que raconte Sophie Houdard dans ce territoire qui, comme une pulsation, c'est l'intelligence et la variété du vivant. Mais c'est vrai qu'on est parfois dubitatif. On se demande comment est-ce possible, après Hiroshima et Nagasaki, que le pays se soit lancé dans le nucléaire, quand bien même il est dit nucléaire civil. Bon, ça reste du nucléaire. Mais on oublie, on passe à autre chose, comme dans la vie en général.
Ce qui m'a intéressé, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à l'anthropologie des sciences et à l'histoire des sciences, enfin, comment les savoirs s'établissent, se stabilisent, se fabriquent, enfin, évolue, etc. Et là, il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressée et pour compliquer, l'idée c'est toujours de compliquer l'affaire. Et donc là, ça amène à faire une enquête aussi de type plus historique, à la fois sur qu'est-ce qui s'est passé après Hiroshima et Nagasaki, comment en fait des politiques, aussi des politiques culturelles très fortes, ont tout fait, et pas seulement japonaises, et bien aidées par les Américains, pour dire nucléaire civil et nucléaire militaire, ça n'a aucun rapport. Voilà. Et donc, toutes les années 50, au moins, sont dévolues à ça. Il y a des expositions, il y a des films, il y a Astro Boy, enfin, il y a tout ça, qui fait que c'est des campagnes vraiment de publicité, d'information, tout ça. Et donc, qui fait qu'on construit dans le temps la possibilité pour un pays, des gens, des personnes, de croire en l'énergie de l'avenir, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de l'avenir, et faire le deuil de cette histoire, militaire, le nucléaire militaire, c'est lié à la défaite, c'est lié aussi, il faut se repentir, hein, c'est vraiment un moment voilà, très dur de l'histoire japonaise, et tout a été fait pour déconnecter ces deux histoires. Voilà. Par ailleurs, un autre élément historique qui fait que ça complique l'histoire, c'est, moi ça m'a passionné aussi, c'est l'histoire de la géologie, l'histoire de la sismologie, et de réaliser qu'en fait, au moment où les projets de centrales nucléaires se développent au Japon, eh bien, la théorie des plaques tectoniques n'est pas encore officialisée au Japon. C'est très tard. Alors même en Europe, même aux États-Unis, hein, c'est les années 60, premier article, c'est les années 60. Et au Japon, il y a des tas de controverses, qui sont des controverses scientifiques, qui n'invalident pas cette théorie-là avant au moins 20 ans plus tard. Et donc, c'est pas du tout pour excuser TEPCO ou excuser le fait qu'il y a eu des bourdes énormes parce qu'il y avait un paléo sismologue, quelqu'un qui avait travaillé sur l'histoire de la sismologie des tremblements de terre très, 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 très ancien, qui était allé voir TEPCO en disant il faut relever les digues, on a trace maintenant, on sait, etc. Et voilà, ça s'est pas fait, ça a été négligé. Il y a comme aujourd'hui encore, il y a des cas de négligence, alors que maintenant, quand même, on sait que... Donc, ça n'excuse rien. Mais ça complique l'histoire. C'est-à-dire, quand même, voilà, il faut considérer que... Enfin, moi, j'en revenais pas que ce soit si tardif, cette histoire de plaque tectonique. Et avec tout ça, va l'idée que les sciences de la Terre sont très liées à l'histoire nucléaire, nucléaire militaire, voilà. Le développement des instruments en physique de la Terre et notamment en sismologie, ça prend un coup de boost énorme pendant la guerre froide parce qu'il s'agit de pouvoir distinguer un essai nucléaire d'un tremblement de terre. Donc c'est vraiment le nucléaire qui investit massivement dans l'histoire de la sismologie, par exemple, dans les sciences de la Terre. Enfin bon, tout ça, c'est encore une fois, c'est pas pour chercher des excuses, c'est pas pour amoindrir ce qui s'est passé, c'est au contraire pour faire comprendre que ça a une histoire beaucoup plus longue et des ramifications beaucoup plus profondes, en fait. C'est lié à l'histoire de notre modernité, c'est lié à l'histoire de notre rapport à l'environnement, à la Terre, à notre place sur la Terre. Enfin, voilà, c'est une histoire très, très lourde, quoi. Une des choses qui, pour moi, a été une leçon forte, c'est sur justement ce qui peut ou non s'apprendre d'une catastrophe. Donc, le livre finit un petit peu là-dessus, sur Monsieur Ono qui me dit s'il arrive une catastrophe nucléaire chez vous, je pourrais vous donner quelques tips, quelques conseils. Et en même temps, ce qui fait comprendre, c'est qu'il faudra qu'on refasse tout le chemin, quoi. Que ça ne va pas être clé en main. Que les solutions qu'ils auront, eux, essayé laborieusement de trouver, de mettre en place, de stabiliser, ben il y a de grandes chances qu'elle marche pas chez nous et qu'il faudra qu'on arrive à nos propres conclusions en ayant refait tout le travail d'enquête que eux-mêmes ont accompli. Et pour moi, c'est en fait un des points d'aboutissement de cette enquête-là, mais c'est le point de départ aussi de ce sur quoi je suis en train de travailler maintenant et qui m'amène d'une certaine façon dans la Hague, en Normandie. Je ne suis pas en train de comparer Fukushima et la Hague, mais dans cette histoire très dense dont on a parlé, très longue aussi, le fait de pouvoir concevoir que des choses sont comparables, qu'on va pouvoir gérer, avoir des modes de gestion, un management, des catastrophes nucléaires, avec une capitalisation d'une catastrophe qui va servir à une autre, etc. Ça, c'est quand même le mode de gestion qui est à l'œuvre et qu'on voit, voilà, en France, on a un plan de gestion, un plan d'évacuation qui a pris en compte, mais évidemment, la catastrophe de Fukushima, qui s'est servi de Fukushima comme d'un laboratoire et qui paramètre un certain nombre de décisions au regard de ce qui s'est passé, voilà. De comprendre cette chose-là, qu'il y avait d'une part, du point de vue à hauteur des gouvernements, des choses qui se préparent, des scénarios qui sont établis, et pour lesquels c'est bien utile d'avoir des catastrophes. Et puis, la catastrophe telle qu'elle est vécue, voilà, dans l'expérience des personnes, dans l'existence des personnes, et avec toutes ces choses qui sont irréductibles, pas reproduisibles, il n'y a pas de raccourci possible, voilà. Et donc pour moi, ça ouvre des tas de questions sur comment est-ce qu'on a pu imaginer ça. On n'est pas du tout sorti de ces affaires-là, vu les politiques qui sont menées actuellement. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose à avoir en tête, quoi, sur ces questions-là, quoi.
Oh non, crotte, zut, le temps a filé, et moi j'avais encore envie de vous dire plein de choses. Bon, ben je vous dis juste que le Japon est entré dans l'ère de la belle harmonie. C'est tout ce que je souhaite aux Japonais Et à nous aussi d'ailleurs, parce qu'en ce moment, l'harmonie sur Terre, c'est pas flagrant avec ou sans nucléaire. Alors profitez, respirez, abreuvez-vous d'air pur tant qu'il y en a. Moi, je vous quitte avec les poils de Sophie Houdard, mais on se retrouve très bientôt sur la FM et puis d'ici là, en podcast sur le net.
Mes poils, je fais ce que je peux pour les laisser libres. Si je peux raconter l'histoire de mes poils, après les avoir laissés très longtemps pousser sur mes jambes, ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années, et le moment où je me suis rendu compte de ce que devaient éprouver les hommes avec leurs poils sur les jambes, c'est le vent qui passe sur les poils et qu'on n'éprouve pas du tout quand on est épilé. Et alors ça, vraiment, j'ai trouvé ça, c'était une découverte, voilà. J'aimerais bien transmettre ce goût-là à ma fille, qui malheureusement continue à s'épiler. J'aimerais qu'elle découvre ce plaisir du vent dans les poils.